La porteuse de pain, première partie, chapitres 31 à 35. Jeanne, que le découragement et le désespoir envahissaient de nouveau, se tordit les mains. « Ce que vous venez de me dire, balbutia-t-elle, je me le suis répété 20 fois. Les preuves me manquent, je le sais bien. Si l'accent de la vérité ne vous touche point, je suis perdue. Vous tâcherez de convaincre le jury de votre innocence. Je n'ai plus d'espoir qu'en Dieu désormais. Au lieu de vous obstiner dans le mensonge, pourquoi ne pas aborder la voie du repentir et des aveux? La justice vous en tiendrait compte? Je ne puis avouer n'étant pas coupable. » Le juge d'instruction fit un geste d'impatience. « Vous n'avez plus rien à ajouter ? » demanda-t-il. « Rien, monsieur. Vous persistez dans vos dénégations. »«
Je persiste ?»«
On va vous donner lecture de votre interrogatoire et vous le signerez. » Ces formalités remplies, les gardes de Paris, qui avaient amené Jeanne dans le cabinet du juge d'instruction, l'emmenèrent et la réintégrèrent au dépôt, d'où elle fut extraite le lendemain pour être écrouée à la prison de Saint-Lazare. Le procès s'instruisit avec une extrême rapidité et le juge adressa les pièces à la chambre des mises en accusation qui renvoya l'accusé devant les assises du département de la Seine. Le curé Laugier s'était activement employé pour Jeanne. Il avait remué scie à l'éther afin de sauver la malheureuse femme et fait agir en sa faveur toutes les influences dont il disposait. Partout, on lui répondit qu'il protégeait une créature indigne d'inspirer l'intérêt et même la compassion. Le juge de Launay, chez lequel il s'était présenté pour obtenir l'autorisation de voir Jeanne dans sa prison, lui avait refusé cette autorisation, l'inculpé étant au secret et ne devant par conséquent communiquer avec personne. À son refus, le magistrat avait cru devoir ajouter ces mots. « Croyez-moi, monsieur le curé, abandonnez cette femme. C'est un monstre d'hypocrisie. » L'ecclésiastique en arrivait à se demander s'il ne jouait point un rôle de dupe en se laissant prendre aux belles paroles d'une coquine. Il était allé au renseignement. Personne n'ignorait que le contremaître, accusé par Jeanne Fortier, était mort victime de son dévouement. Donc, Jeanne seule avait commis les crimes d'incendie, de vol et d'assassinat. Bref, le doute entrait dans l'esprit de M. Laugier. Et conduit par tous ceux auxquels il s'adressait, il perdait à la fois la confiance et le courage. La seule chose obtenue par lui fut que le petit Georges resta dans sa maison au lieu d'être envoyé à l'hospice. Georges s'habituait à la cure où on l'enveloppait d'affection, où on le comblait de caresses. Madame Darié retrouvait avec cet enfant la joie de la maternité qu'elle avait goûtée un instant jadis. Georges aimait à l'adoration sa petite maman Clarisse. C'était ainsi qu'il la nommait. Le gamin réunissait en lui, du reste, tout ce qu'il fallait pour se faire aimer. Aussi l'abbé Laugier ressentait une tendresse profonde à l'endroit de ce pauvre être innocent à qui la justice, sans doute, allait enlever sa mère. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de la veuve de Pierre Fortier. Le jugement devait avoir lieu dans 8 jours. À l'âge de Georges, les enfants oublient vite. Georges n'oubliait pas encore, mais il pensait déjà moins souvent à sa mère, dont on évitait de parler devant lui. « Si la malheureuse est condamnée, disait Madame Darié à son frère, mieux vaut qu'il ne se souvienne point et qu'il ignore plus tard la souillure faite à son nom. D'ailleurs, j'ai un projet.
Lequel, chère sœur?
Celui d'adopter cet enfant, si le jury se montre sévère et inflige à sa mère une peine de longue durée. Je lui donnerai mon nom, je l'élèverai, nous en ferons un homme dont nous serons fiers un jour, et nous n'aurons point laissé le chagrin envahir son âme. M'approuves-tu?
Je t'approuve de toutes mes forces, chère sœur. C'est une bonne pensée qui t'est venue. Mais pour la réaliser, nous devons attendre que le jugement soit rendu.
Nous attendrons. Crois-tu toujours à l'innocence de Jeanne Fortier?
Je ne sais plus. Je suis ébranlée. Je doute.
Mais si cette malheureuse est coupable, l'enfant ne doit point porter la peine des fautes de sa mère, et nous ferons en sorte qu'il ne connaisse jamais le nom de la condamnée. Le jour où le jugement devait être rendu arriva. Le triple crime d'Alfortville avait fait d'autant plus de bruit que la victime était un ancien élève de l'école polytechnique, un homme connu et estimé. Une foule considérable, difficilement contenue par les gardes de Paris et les gardiens de la paix chargés du service d'ordre, envahissait dès le matin les abords de la salle des assises.
Dès qu'on ouvrit les portes, cette salle se trouva bondée. Les jurés arrivèrent, puis la cour. On amena l'accusé. Le président des assises déclara l'audience ouverte. La détention, la mise au secret, la conviction de son impuissance absolue dans la lutte qu'elle allait soutenir contre la justice avaient brisé Jeanne et anéanti chez elle toute énergie physique et morale. D'avance, elle se sentait condamnée. « Mes enfants, mes pauvres enfants !» se disait-elle avec désespoir. « Ne les reverrai-je donc jamais? Jamais plus ?» L'abbé Laugier, sa sœur et Étienne Castel étaient venus à Paris pour assister à l'audience où Jeanne serait jugée. La liste des témoins comprenait un grand nombre de noms. En tête se trouvaient ceux du caissier Ricoux, de Madame François, l'épicière d'Alfortville, de David, le garçon de bureau, et de Madame Bertin, la sœur de Monsieur Labroux. Lecture fut faite de l'acte d'accusation. Il était écrasant. Après l'avoir écouté, la foule entassée dans la vaste salle de la cour d'assises considérait Jeanne comme la dernière des misérables. On procéda à l'interrogatoire des témoins. Nous ne reviendrons pas sur les dépositions que nos lecteurs connaissent et qui accablaient l'accusé. La malheureuse n'avait pas un seul témoin des charges à faire entendre. Sur tous les points, sauf un seul, la culpabilité semblait indiscutable. Qu'était devenu l'argent volé? Le ministère public affirmait que la veuve de Pierre Fortier avait caché cet argent quelque part, en un lieu sûr, où elle comptait bien le retrouver un jour. Sa misère apparente, son dénuement complet au moment de l'arrestation, ne pouvait être qu'une comédie. Si plausible qu'elle fût d'ailleurs, cette assertion du ministère public ne s'appuyait sur aucune preuve. La parole fut donnée à Jeanne. Quoique ne conservant pour ainsi dire aucun espoir de démontrer son innocence, la pauvre femme ne s'abandonna point, parla d'une façon énergique et expliqua au tribunal les motifs de sa fuite. Les menaces de Jacques Garot, ses violences et l'anéantissement par le feu de la lettre écrite par lui. Ce récit, au lieu de concilier à l'accusé la bienveillance des jurés, les irrita. Le cynisme de Jeanne leur parut monstrueux. La misérable créature osait calomnier l'homme qui avait payé de sa vie son généreux dévouement à son patron. Ce nouveau crime couronnait dignement les crimes antérieurs. On avait nommé à Jeanne un avocat d'office. C'était un homme de talent et il le prouva. Une seule chose manquait à son plaidoyer, la conviction. Comment aurait-il semblé convaincu lorsque lui-même ne croyait point à la non-culpabilité de sa cliente? Après la réplique du ministère public, le jury se rendit dans la salle de ses délibérations. Son absence ne dura pas plus de 20 minutes. Lorsqu'il revint, un grand silence se fit. Le chef du jury prit la parole. À l'unanimité, les jurys déclaraient l'accusé coupable du crime d'assassinat, d'incendie et de vol. À la majorité des voix, ils admettaient des circonstances atténuantes. Les membres de la cour appliquèrent les articles de la loi. Jeanne Fortier fut condamnée à la réclusion à perpétuité. En entendant prononcer cette condamnation terrible, la malheureuse poussa un cri de douleur et s'évanouit. On fut obligé de l'emporter à la conciergerie, d'où on la transporta toujours inanimée à Saint-Lazare. Quand elle reprit connaissance à l'infirmerie, elle prononçait des mots sans suite, des phrases incohérentes. Une violente fièvre cérébrale venait de s'emparer d'elle et mettait sa vie en danger. Jacques Garot, dont la condamnation de Jeanne pour le crime qu'il avait commis rendait plus complète encore la sécurité, s'était, nous l'avons dit, embarqué à Londres sur le Lord Mare, un paquebot des messageries en partance pour New York. À bord de ce paquebot se trouvaient 123 passagers allant à des destinations différentes. Ces passagers, dont un assez grand nombre était américain, appartenaient à toutes les classes de la société. Paul Armand, puisque c'est ainsi que nous désignerons désormais l'ex-contremaître, occupait une cabine de première classe et n'avait, ou du moins pouvait, n'avoir aucune relation avec les pauvres diables du gaillard d'avant. L'embarquement avait eu lieu à 10 heures du matin. Paul Armand était arrivé l'un des premiers. Avant de descendre dans sa cabine, il attendait, accoudé au bastingage, que l'embarquement fût terminé, que le second du navire eût procédé à l'appel nominal des voyageurs. Jusqu'à cette époque, le mécanicien n'avait mis les pieds sur un navire que pour aller de France en Angleterre. En conséquence, il regardait avec curiosité tout ce qui l'entourait et se promettait, une fois en route, d'étudier le mécanisme de la machine à vapeur, différent par bien des points de celle qui fonctionnait à l'usine d'Alfortville. Les passagers, en ce moment, se trouvaient pêle-mêle, les places de chacun n'étant point encore désignées. Les allées et venues des matelots affairés offraient un coup d'œil mouvementé et pittoresque. Parmi les derniers arrivés se trouvait un homme de 50 ans, appartenant évidemment à la classe riche, et accompagné d'une charmante jeune fille de 18 ans. À côté d'eux se voyait un grand garçon de 28 ans environ. Ce grand garçon offrait le type si facile à reconnaître de l'ouvrier intelligent, mais loustique et bambocheur. Vêtu d'un costume de velours à côtes, comme en portent les mécaniciens ou les charpentiers, et tenant une petite valise à la main, il était blond, maigre et pâle, complètement imberbe, sauf un soupçon de moustache au-dessous des narines. Un sourire gouailleur semblait avoir élu domicile sur ses lèvres minces. Ses petits yeux, d'un bleu d'acier aux prunelles mobiles, offraient une expression d'astuce et de malignité. Sa tournure déhanchée était celle des ouvriers qui fréquentent les assommoirs beaucoup plus que les ateliers. Il parlait d'une voix grasseyante en laissant traîner les mots. « Excusez, » fit-il en mettant le pied sur le pont. « C'est frotté ici, que c'en est comme un vrai verglas. Au moindre roulis, on risquera de casser le verre de sa montre sur le parquet. Oh, malheur !» En l'entendant s'exprimer ainsi, l'homme de 50 ans et la jeune fille échangèrent un sourire. Puis, se tournant de son côté, l'homme lui dit avec un accent anglais très prononcé. « Vous voilà en route pour l'Amérique. Votre passage et votre nourriture sont payés. Je vous ai en outre remis une somme de 200 francs. Je n'aurai donc point à communiquer avec vous pendant la traversée. En arrivant à New York, nous nous retrouverons. » « Compris, monsieur, » répliqua le grand garçon, dont nous avons esquissé la silhouette. « Vous en première, moi en seconde. Après l'appel nominal, vous passerez au salon et je resterai dans l'antichambre. Soyez paisible, je vous retrouverai au débarquement. Je suis lesté pour le voyage. C'est principal. Tout va bien. Ohé, les petits agneaux, qu'est-ce qui casse les verres ? » L'ouvrier alluma une cigarette, tandis que son interlocuteur et la jeune fille allaient se placer près du bastingage, à deux ou trois pas de Paul Armand. Celui-ci tourna la tête du côté de ses nouveaux voisins, et ses regards s'arrêtèrent avec complaisance sur la jeune fille, blonde aux yeux bleus, grande et mince, admirablement bien faite, délicieusement jolie, gracieuse et distinguée. « Bien belle personne, se dit-il, le monsieur aux cheveux gris doit être son père. » L'enfant blonde s'était aperçu de l'attention du voyageur et de l'admiration qu'exprimaient ses regards. Une rougeur vive envahit son visage et elle changea de position de manière à ne plus être vue. L'appel commença. Le pêle-mêle des passagers existait encore sur le pont. On se coudoyait sans distinction de classe. L'ouvrier, en complet de velours à côtes, se trouvait à égale distance de l'homme aux cheveux gris qui accompagnait sa fille et de l'ex-contremaître d'Alfortville. Le second du navire, tenant à la main sa liste, appela les noms de James Mortimer et de Noémie Mortimer, auxquels répondirent l'enfant blonde et son père. « Noémie Mortimer ?» pensa Jacques Garot. « Deux noms charmants. »« Monsieur Paul Armand !» appela le second. « Présent !» répondit Jacques. En entendant appeler Paul Armand, le jeune homme, à l'allure dégingandée et au langage pittoresque, tressaillit brusquement, et ses yeux se fixèrent avec une étrange expression de curiosité sur l'homme qui venait de répondre présent. « Paul Armand » murmura-t-il. « Le nom de mon cousin, le mécanicien, qu'on prétendait défunt ? Ah, par exemple, elle est bien bonne, celle-là. Le bonhomme me fait l'effet d'un particulier qui a le sac. » « Ça serait rigolo tout de même de se découvrir un parent calé. » Et il dévisageait Jacques Garot, qui ne se doutait guère de l'impression que produisait le nom emprunté par lui à un camarade mort. « C'est drôle, » poursuivit l'ouvrier. « Je l'ai vu autrefois, mon cousin, et je ne le reconnais pas du tout. Il était plus jeune, c'est vrai, et les années, ça change un homme. Mais enfin, je me souviens un peu de ses traits, et il me semble que je n'en retrouve pas un seul dans ce visage-là. Ce ne doit pas être lui. » « Il y a plus d'un âne dans la foire qui s'appelle Martin, » dit le proverbe. « C'est égal, je taillerai une bavette avec ce particulier-là. » En ce moment, on appela « Ovid Soliveau ». Le Parisien répondit « Voilà !» L'appel fut bientôt terminé. Immédiatement après, on donna l'ordre de classement des passagers. Sapristi, pensa l'ouvrier. Plus que ça de chic. Le paroissien voyage en première classe, comme l'ingénieur Mortimer et sa demoiselle. Nous voilà séparés. Où va-t-il? À New York ou autre part? Si c'est à New York, je le pigerai au débarquement. Mais s'il descend en route, à une escale quelconque, ça ne fera pas mon affaire. Impossible de causer. Que je suis bête, ajouta Ovid Soliveau en se frappant le front. Si les deuxièmes ne vont pas dans les premières peuvent sans difficulté aller dans les deuxièmes. Je ferai passer mon nom à ce Paul Armand et il viendra me trouver sur le gaillard d'avant. Rien de plus simple. Les voyageurs avaient pris possession de leurs places respectives, le paquebot leva l'ancre et fila bientôt à toute vapeur vers l'Amérique. Dès le second jour, Ovid Soliveau s'aperçut que les voyageurs de première classe ne se gênaient point pour continuer leur promenade sur l'avant du navire. Il espéra que Paul Armand y viendrait d'un moment à l'autre fumer son cigare et qu'il lui serait facile de l'aborder. Cet espoir fut déçu. Jacques Garot montait peu sur le pont, même à l'arrière, et passait la plus grande partie de son temps au salon, où se tenaient de préférence l'ingénieur Mortimer et la blonde Noémie. Il se mettait l'esprit à la torture pour trouver un prétexte ingénieux qui lui permît d'entrer en relation avec le père et la fille. Mais son imagination ne lui suggérait absolument rien de pratique. Quelques mots surpris d'une conversation entre Mortimer et un passager lui avaient appris que Mortimer se rendait à New York, son lieu de naissance. Allant lui-même à New York, l'ex-contremaître souhaitait d'autant plus faire la connaissance d'un homme qui, pendant le voyage, pourrait le mettre au courant des coutumes du pays et qui, une fois en Amérique, lui serait certainement très utile s'il parvenait à capter sa confiance. Mais, nous le répétons, il ne trouvait rien. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ. Le temps magnifique avait attiré sur le pont une grande partie des passagers. Le paquebot filait à toute vitesse sur une mer calme comme un lac et laissait derrière lui un panache de fumée noire et un long sillage d'écume blanche. Ovid Soliveau parcourait les groupes à l'avant afin de s'assurer qu'il n'y rencontrerait pas ce Paul Armand qui peut-être était son cousin. Mais pas plus que la veille et l'avant-veille, Jacques Garot ne quittait le salon. « Pas possible !» se disait Ovid. « Pour se payer comme ça le régime cellulaire, faut que le paroissien soit malade. Je vais m'en assurer illico. » Il piqua droit à un employé au service des cabines, qui, tant bien que mal parlait français, le salua et lui adressa ces mots. « Pardon, monsieur, mais si c'était un effet de votre complaisance, j'aurais à vous prier de me rendre un petit service. » Oh, yes, répondit l'anglais. Je vole les biennes. Voici la chose. Il y a un passager de première classe que l'on a nommé devant Bibi le jour de notre embarquement.
Bibi,
interrompit l'employé. Bibi, c'est moi, répondit Ovid. Son nom m'a rappelé celui d'un mien cousin que je croyais défunt, et qui l'est peut-être en effet, mais qui peut-être aussi se porte comme vous et moi.
Oh, yes, c'était possible.
Je voudrais savoir à quoi m'en tenir. Or, comme le règlement m'interdit l'entrée des premières, et que je respecte la consigne, je viens vous prier de me rendre le service de prévenir ce monsieur que quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à lui dire, mais qui ne peut pas aller le rejoindre, le prie de venir le trouver pour 5 minutes sur le gaillard d'avant.
Oh, yes!
Disez à moi le nom du personnage.
Paul Armand.
Disez aussi à moi le nom de vous.
Ovid Soliveau.
Sujet français, natif de Dijon, Côte d'Or.
Oh, yes, ce était suffisant.
Je rendrai le service à vous. L'employé au service des cabines tourna méthodiquement sur ses talons et descendit avec une raideur toute britannique les marches de l'escalier conduisant à l'entrepont.
Pas bavard, ce coco-là,
se dit Ovid en le regardant s'éloigner. Mais bon enfant tout de même, et c'est ce qu'il me faut. L'anglais descendit à la salle à manger et s'adressant à un maître d'hôtel, lui demanda dans sa langue maternelle. « Connaissez-vous un monsieur Paul Armand des premières ?» Le maître d'hôtel ouvrit un agenda dont chaque feuille portait une lettre alphabétique. Il chercha d'abord à l'A, puis, ne trouvant rien, il passa à la lettre H. « Armand Paul, répliqua-t-il, cabine numéro 24. C'est ce passager qui se tient presque toujours au salon. Bon, je me souviens, je vais voir. » Et l'employé se rendit au salon, où l'ex-contremaître piochait la grammaire anglaise et le dictionnaire, car il voulait en arriver promptement à se faire à peu près comprendre. Le garçon, s'approchant de lui, l'aborda par ces mots.
« Je priez-vous de pardonner à moi. C'était vous qui étiez le très honorable Paul Armand ?»
Jacques Garot leva vivement la tête.
« Oui, »
fit-il avec une curiosité mêlée d'étonnement et d'inquiétude.
« C'est moi. Que me voulez-vous ?»«
Ce était une passagère de seconde classe qui demande à parler à vous sur le gaillard d'avant. »
L'étonnement de l'ex-contremaître grandissait. « Un passager des secondes qui demande à me parler ?» répéta-t-il.
« Oh, yes !
Mais je ne connais personne sur le paquebot.
Cette passagère paraît connaître vous parfaitement. »«
Comment s'appelle-t-il ? » ?»«
Ovide Soliveau. »
Paul Armand interrogea sa mémoire. « Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom, j'en suis sûr, » dit-il après un instant de réflexion. L'employé reprit.
« Oh, yes ! Ovide Soliveau, mécanicien. » Ce Jeff français, né à Dijon, Côte d'Or.
Il semble à Louis reconnaître en vous un cousin à Louis qu'il croyait défunt. Jacques Garot tressaillit, pâlit et se leva brusquement pour dissimuler son trouble.
Mon cousin Ovide Soliveau, balbutia-t-il.
C'est bien, je vous remercie, je vais monter sur le pont. L'employé se retira. L'ex-contremaître sortit du salon, mais au lieu de gagner l'escalier, il s'élança vers sa cabine.
« Que signifie cela ? » se demandait-il.
« Cet Ovide Soliveau serait-il véritablement le cousin de Paul Armand, mort à Genève et que je fais revivre ?» Au moment où je me croyais bien en sûreté sous mon nom d'emprunt, un hasard diabolique va-t-il me mettre en face d'un homme qui peut m'arracher mon masque ?«
Mais oui !»
poursuivit-il avec un geste d'effroi. « La mère de Paul Armand était une Soliveau. » Le livre qui se trouve entre mes mains en fait foi, et je l'avais oublié. » Tout en parlant, Jacques exhibait son portefeuille. Il en tira le livret en question, l'ouvrit à la première page et lut. « Paul Honoré Armand, fils de Césaire Armand et de Désiré Claire Soliveau. »«
C'est bien apparent de feu, mon camarade » continua-t-il.
« Que faire ?» De point aller à ce prétendu cousin, c'est éveiller dans son esprit des soupçons. De pousser à chercher. À écrire, à s'informer, c'est compromettre l'identité fabriquée par moi, c'est me perdre. Il faut payer d'audace. Je saurais bien tenir tête à cet homme et lui prouver que je suis Paul Armand.
Le lui prouver ?
Répéta Jacques. Sera-ce possible s'il est certain que son cousin est mort ? Quoi qu'il en soit, je dois le voir. C'est un obstacle que ma mauvaise chance jette sur mon chemin. Il faut le tourner ou le briser. Jacques essuya son front mouillé de sueur, replaça le livret dans son portefeuille, remit le portefeuille dans sa poche, puis, prêt à braver l'orage qui peut-être grondait sur lui, il gagna le gaillard d'avant. Ovide, convaincu que l'Anglais avait fait sa commission, et presque certain que le passager porteur du nom de Paul Armand, qu'il fût ou ne fût pas son cousin, viendrait le trouver pour avoir une explication avec lui, attendait sans trop d'impatience, fumant force cigarette. Quand il aperçut Jacques, il se dirigea vivement de son côté.
« C'est vous, monsieur, » dit-il en le saluant. « Je vous remercie de vous être dérangé pour moi, et je vous en remercie d'autant plus qu'en vous regardant de près, quoiqu'il y ait bigrement longtemps que nous ne nous sommes rencontrés, je suis à peu près sûr de ne pas me tromper et de tendre la main à mon cousin, à mon vrai cousin, car vous êtes Paul Armand, n'est-ce pas ?»«
Parfaitement, » répondit Jacques, sentant qu'il ne pouvait nier, car le registre du bord portait le nom et les prénoms qu'il avait jugé convenable de s'offrir, et la vérification était facile. Ovide poursuivit. « Paul Honoré Armand, de Dijon, Côte d'Or, le pays des plus fameux vins de France, fils de Césaire Armand, et de Désiré Claire Soliveau, » acheva Jacques. « La propre sœur de mon père, » dit le Dijonnais. « Ce qui fait que vous êtes mon cousin Ovide Soliveau. »
« Un peu, mon neveu !» s'écria Ovide.
Les deux hommes se serrèrent la main. Puis Ovide reprit joyeusement avec sa familiarité de bon vivant.
« Ah, saperlipopette ! Mon cousin, quelle veine de se retrouver ! Moi qui te croyais mort !»«
Mort ?» répéta Jacques Garot avec un sourire.
« Entre nous, j'en doute un peu. Qui diable a raconté cela ?»«
On le disait au pays, où je suis allé il y a 5 ans, mais on n'en était pas tout à fait sûr. » »«
Enfin, d'où venait ce bruit absurde ?
Un ouvrier genevois, de passage à Dijon, avait persuadé ça à ta mère. Il ajoutait que tu avais claqué à l'hospice. La bonne femme allait écrire afin d'apprendre la vérité quand elle mourut elle-même d'une attaque d'apoplexie 1 an après ton père. Tu as dû savoir tout ça.
Oui, oui, répondit Jacques Garot, enchanté de se trouver si bien renseigné. J'ai su ça à l'époque, et ça m'a fait beaucoup de chagrin. Pauvre père, pauvre mère. Et le misérable fit semblant d'essuyer une larme. Ovide reprit. Tu as été au pays, sans doute, toucher le petit héritage que tes parents t'avaient laissé.
Pas grand-chose, mais enfin, ce qui t'arrive est toujours bon à prendre.
C'était peu de chose, en effet, répliqua Jacques.
Faut point te plaindre, ma vieille. Je n'ai pas hérité d'un radis, moi qui te parle.
Comment, tu as perdu tes parents?
Il y a 2 ans. Plus un soliveau dans la Côte d'Or. De toute la famille, c'est moi seule qui reste.
Comme toi de la famille Armand, mon vieux Paul.
Disparu la famille Armand. Ni tenant, ni aboutissant.
Ça nous constitue la position d'orphelin.
Ah, quelle chance de se retrouver entre cousins.
Figure-toi que je ne t'avais pas positivement reconnu d'abord le premier jour.
Je doutais.
Dame, voilà 6 ans que nous ne nous sommes vus.
Tu avais 25 ans et moi 22.
Et tu peux te flatter d'être joliment changée.
À ton avantage, d'ailleurs.
Ah, sans le nom, tu sais, jamais je ne t'aurais reconnu pour mon cousin.
Il y a aussi la toilette.
Mazette, quelle frusque!
T'es devenu un monsieur très chic, un particulier tout à fait Rupin.
Est-ce que depuis notre seule et unique rencontre à Marseille, il y a 6 ans, tu as fait fortune?
Fortune, pas précisément.
Tant pis, mais néanmoins, je ne me plains pas de ma position. J'ai mené à bien une invention qui m'a permis de mettre de côté quelques milliers de francs.
Ah, tonnerre, les inventions, ça vous enrichit un homme d'un coup, à moins que ça ne tourne mal, et alors, ratiboisé.
Mais tu étais un malin, toi. Tu avais été à l'école de Châlons, et ensuite aux arts et métiers. Tu avais du goût pour le dessin.
Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé. Puis Jacques, voulant changer le cours de la conversation et obtenir des renseignements sur son cousin, ajouta.
Et toi, voyons, qu'est-ce que tu fais?
Dame, toujours la même chose.
Quelle chose?
Ovide regarda Jacques avec étonnement.
Comment quelle chose? S'écria-t-il. As-tu donc perdu la boussole? Tu sais bien que je suis mécanicien.
L'ex-contremaître se mordit les lèvres.
C'est vrai, répliqua-t-il. Je suis absurde. Excuse-moi. C'est qu'en ce moment, j'avais une distraction.
Il n'y a pas de mal à ça.
Et où vas-tu?
À New York. Travailler de mon état d'ajusteur mécanicien.
Tu espères trouver facilement du travail?
Je n'aurai pas besoin d'en chercher. J'en ai sur la planche.
Comment cela? Demanda Jacques Garot.
Je suis embauché pour le compte d'un ingénieur mécanicien du pays qui s'appelle James Mortimer, répondit Ovid.
James Mortimer? Répéta l'ex-contremaître.
Tu le connais?
De vue, oui, c'est ce monsieur grisonnant qui est accompagné d'une si charmante jeune fille.
Ovid se mit à rire et frappa vigoureusement du plat de sa main l'épaule du faux Paul Armand. En même temps, il s'écriait.
Ah, t'as remarqué ça, toi, ma vieille branche.
Eh bien, t'as bon goût.
Oui, oui, elle est jolie, la petite demoiselle. Plus jolie que la Pierrette, hein?
Qui ça, la Pierrette? Fit Jacques sans réfléchir.
Le Dijonnais eut peine à réprimer un geste de surprise.
« Comment, t'as oublié la Pierrette ? »
dit-il ensuite. « Celle qui avait un si fameux béguin pour ta figure ?»«
Ah oui, oui, la Pierrette !» répondit Jacques avec un rire contraint.
« Je n'y pensais plus. C'est si loin, tout ça. »«
Si loin ? Pas déjà tant ?» se disait Ovide en écoutant cette réponse.
« C'est particulier. On dirait qu'il ne se souvient de rien, le cousin. Quand on lui parle de n'importe quoi, il a l'air d'un ahuri de chaillot.
Tout de même, c'est drôle. »
C'est bien drôle.
À l'expression du visage de son interlocuteur, Jacques comprit qu'il venait de commettre une nouvelle et grave imprudence. Il se hâta de renouer l'entretien afin de ne pas laisser au vide à ses réflexions.
Comment ça? Dit-il. Tu vas travailler à New York chez l'ingénieur James Mortimer?
Un engagement de 3 ans en qualité de mécanicien ajusteur. Les Américains ne valent pas les Français pour la précision et il paraît que James Mortimer, un inventeur aussi comme toi, a combiné une machine à guillocher d'un nouveau modèle qui doit enfoncer toutes celles existant jusqu'à présent. En entendant les derniers mots prononcés par Ovide,
Jacques Garot tressaillit visiblement. « Une machine à guillocher ? » répéta-t-il avec étonnement et inquiétude. « Oui, tu dois connaître cela à fond, toi qui as travaillé à Genève, où on les a perfectionnés. En effet, je connais cela à fond. Moi aussi, et comme j'en ai monté et ajusté plusieurs, le particulier m'a fait un engagement de 300 à 500 francs par mois. » L'ex-contremaître était devenu songeur. « Quelle espèce de machine à guillocher l'Américain a-t-il inventée ? » demanda-t-il. « Il n'a rien inventé, il a perfectionné seulement. » « Quels sont les perfectionnements imaginés par lui ? A-t-il trouvé le moyen de guillocher l'argenterie façonnée en rond de bosse ?»« Oh ça, tu vas te taire, cousin ?» fit Ovid en riant et en donnant une poussée à Jacques. « Pourquoi ? Une machine à guillocher les ronds de bosse, les talons renversés, les gorges, les ornementations brutes ? Tu sais bien que ce n'est pas possible, toi qui es du métier. » « C'est difficile, en effet, mais non pas impossible. Tu crois ? Tout peut se trouver. Eh bien, trouve ça et tu seras vite millionnaire. Est-il riche, ton futur patron ? Autant que la Banque de France, à ce qu'il paraît. Il a des ateliers comme il n'y en a nulle part à New York, et il compte sur sa machine perfectionnée pour doubler tout ça. Sais-tu ce qu'il te faudrait à toi, cousin ? Quoi donc ? Une association avec ce particulier-là, tout bonnement. Tu as de l'idée et de l'acquis. Tu es travailleur, tu pourrais te faire dans la fabrique une position de premier ordre. La fille est jolie et bien dotée. Eh, qui sait ? Il n'y a que les honteux qui perdent, vois-tu ? Ah, si j'étais un monsieur comme toi ! Tout en parlant au faux Paul Armand, Ovide l'examinait avec une attention presque soupçonneuse. En ce moment, Jacques avait ôté son chapeau et s'essuyait le front. Le contremaître de M. Labroux, nos lecteurs ne peuvent l'avoir oublié, avait, à l'aide d'une teinture, changé la nuance de ses cheveux. Personne n'ignore que l'application de la teinture doit être renouvelée souvent, par l'excellente raison que les cheveux poussant chaque jour reprennent à la racine leur couleur naturelle. Jacques était teint depuis 5 jours. Ses cheveux avaient poussé. En conséquence, une ligne rougeâtre apparaissait entre la peau du front et le reste de sa chevelure d'un superbe ton noir. Ovid avait un coup d'œil perçant. Dès son premier regard, il avisa cette particularité. De la chevelure, ses yeux descendirent à la barbe. Mais là, il ne put rien constater d'anormal. Le visage était rasé de frais, Jacques Garot ayant la précaution de faire sa barbe chaque matin. Ovid pensait. « Saperlipopée, en voilà une bien bonne. On jurerait que le cousin se teint. Il était cependant bien brun quand je l'ai connu. Pas possible que ses cheveux aient tourné au rouge. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est de plus en plus drôle. Faudra éclaircir la chose. » Jacques était devenu songeur. L'entretien lui semblait s'être prolongé outre mesure. « Allons, cousin, nous nous reverrons, » dit-il en tendant la main à Ovid Soliveau. « Est-ce que nous nous quittons comme ça ? » demanda ce dernier. « Ça me paraît un peu froid. On aurait bien pu trinquer. Moi, je n'ai pas le droit de descendre au buffet des premières, ce qu'ils appellent un bar, mais rien ne t'empêche de venir à notre cantine. « Allons, ne fais pas le fier. Ça va-t-il ? » « Soit, » dit Jacques, n'osant refuser. « À la bonne heure, tu es un zig. » Le Dijonnais passa son bras sous celui de son prétendu cousin et le conduisit à la cantine. L'entretien ne fut pas long. On vida une bouteille de vin de Bordeaux, puis Jacques, prétextant l'heure du dîner, se retira. Tout en regagnant les premières classes, il se disait « J'ai affronté le péril, mais je crois qu'il existe des doutes sur mon identité dans l'esprit de cet homme. Je dois m'attacher ce malencontreux personnage par tous les moyens possibles. Un très sérieux péril me menace de son côté. Ah, si je pouvais le tenir à ma discrétion !» Et il descendit au salon où se trouvaient, comme de coutume, Mortimer et sa fille, la blonde Noémie. De son côté, Ovid réfléchissait aussi. Jacques Garot ne s'était point trompé en lui croyant des doutes. Ses doutes, ou plutôt ses soupçons, étaient faibles encore, mais ils pouvaient grandir et devenir dangereux. L'ouvrier parisien, ou plutôt le Dijonnais devenu parisien, avait à 2 reprises trouvé singulièrement étrange les absences de mémoire de son cousin Paul Armand, mais il aurait eu vite oublié ces absences si la particularité de la chevelure teinte ne fût venue en dernier lieu donner un corps à ses défiances. « Un saperlipopette, oui » murmurait-il en se promenant à grands pas sur le gaillard d'avant, une cigarette aux lèvres. « Il est bigrement changé, le cousin !» Et il a l'air tout singulier. comment ne se souvient-il pas que je suis mécanicien, puisque nous exerçons tous les deux le même état? Comment ne se souvient-il pas de la Pierrette qui faisait des bêtises à cause de lui? Et il se tint. Ses cheveux sont rouges sous le noir. J'ai bien vu ça. Parole d'honneur. Foi d'Ovide Solivo, c'est louche. Si ça n'était vraiment pas mon cousin. Si c'était un particulier qui se soit payé le nom de Paul Armand qu'on disait décédé à Genève. Ovide interrompit son monologue, ralentit le pas, laissa s'éteindre sa cigarette et réfléchit. Mais quelle raison le ferait agir? Reprit-il au bout d'un instant. Voilà ce qu'il m'est impossible de comprendre. Je dois me tromper. C'est égal. Je voudrais bien le faire jaser, ce paroissien-là. Il a un air mystérieux qui ne me va guère. Il a fait fortune en 6 ans. C'était pas tant tout de même. Je sais bien que ça arrive, mais c'est bigrement rare. Je creuserai ça. Je me paierai une petite enquête. Il faut savoir profiter de l'occasion quand on a l'idée fixe de s'arrondir un joli magot. Moi, j'ai l'idée fixe, et si l'occasion se présente... Le Parisien fit une nouvelle pause sans achever sa phrase et ses regards semblèrent chercher quelqu'un sur le pont. Ils s'arrêtèrent sur un homme de 65 ou 66 ans qui portait en bandoulière un petit sac de cuir à serrure. « La voilà, l'occasion demandée !» poursuivit Ovide en dardant sur l'escarcelle un regard étincelant de convoitise. « J'ai vu le contenu de ce sac. Il y a dedans au moins 60 000 francs en or et en billets de banque. Il suffirait de trouver un bon truc pour couper la courroie, empocher le contenu et jeter le contenant à la mer. L'opération réussie, je voyagerai en première classe, je fumerai des cigares à 50 centimes et j'aurai une pelure coupée dans le grand chic par un tailleur cher. Oh, l'occasion, comme ça peut vous retaper un homme! En ce moment, le porteur de la sacoche effleura en passant Ovide, qui frissonna de cupidité, mais ne fit pas un mouvement. Le Dijonnais roula dans ses doigts une nouvelle cigarette, hocha la tête et reprit. « Ça ne m'étonnerait guère d'apprendre que le cousin a rencontré une occasion, lui. Je voudrais bien connaître l'invention qui lui a fait gagner le gros lot. Ça doit être rigolo. » Tout en allumant sa cigarette, il marchait à petits pas. Il fit halte soudain près de deux personnages qui causaient à mi-voix, assis un peu à l'écart près du bordage du gaillard d'arrière. Ce groupe était composé d'un Canadien au visage cuivré, portant le costume de son pays, et d'un jeune homme de 25 ans environ. Le Canadien paraissait avoir atteint un âge avancé déjà. Ses cheveux étaient grisonnants, ses joues creuses. Ses yeux brillaient de fièvre dans la cavité de leur orbite, et tout son corps semblait agité d'un frisson convulsif. Il tenait à la main une fiole remplie d'un liquide couleur d'or. Le jeune homme, un médecin français qui allait tenter la fortune en Amérique, lui parlait. « Ainsi, vous êtes miné par la fièvre depuis 10 années, lui disait-il, et vous n'avez pour la combattre que ce breuvage ?»« Oui, répliqua l'Indien en français, langue qu'on parle couramment au Canada. Et c'est à ce breuvage que je dois de vivre encore. Lorsque la fièvre augmente, j'en prends 5 ou 6 gouttes seulement, et le mal se passe. La faiblesse diminue. « Quelle est cette liqueur ? Une infusion de plantes qu'on trouve dans nos montagnes. Savez-vous le nom de ces plantes ? Dans ma langue maternelle seulement. Comment s'appelle le breuvage lui-même ? Il a plusieurs appellations, entre autres celle-ci, liqueur de vérité. »« Liqueur de vérité ? » répéta le jeune médecin. « Qu'est-ce que ça signifie ? » ?»« Cela se rapporte à l'une des propriétés de cette infusion de plantes. » Laquelle ? Si l'on boit une cuillerée de cette liqueur mélangée à un liquide quelconque, vin, bière ou eau-de-vie, ce mélange surexcite le cerveau au point d'y amener une sorte de folie passagère, qui dure plus ou moins longtemps, parfois quelques minutes seulement, parfois une heure. Tant que dure cette folie, on est pris du besoin de raconter le passé et le présent, de confesser ses pensées les plus intimes. Aussitôt qu'elle cesse, on ne se souvient plus de rien. Dans mon pays, l'homme que l'on accuse d'avoir menti pour une chose grave est contraint d'avaler une cuillerée du breuvage que voilà. Pris aussitôt d'un délire irrésistible, il parle sans le savoir et il avoue son mensonge, sa faute ou son crime. Voilà pourquoi cette liqueur s'appelle liqueur de vérité. « C'est très curieux, » dit le jeune médecin. Ovide Solivo, profondément attentif sans en avoir l'air,
n'avait pas perdu un mot de l'entretien des deux causeurs et des explications fournies par le Canadien.
« Saperlipopette !» murmurait-il. « Très curieux, oui, mais pas neuf. Je la connais, la liqueur du vieux. Elle a servi au boulevard dans un mélo où Dumaine était épatant. Et moi qui trouvais ça bien imaginé. Paraîtrait qu'il n'invente rien, ces auteurs. N'empêche que si j'avais de cette drogue et que j'en fasse boire au cousin, il m'expliquerait pourquoi ses cheveux ont changé de couleur et me raconterait comment il a fait fortune. Bref, je connaîtrais son passé et je saurais ce qu'il a dans le ventre. » Les deux hommes s'étaient remis à causer. Ovid prêta l'oreille de nouveau. Le Canadien poursuivit. « La liqueur de vérité a bien d'autres vertus, une entre autres très remarquable. Laquelle ? » fit le médecin pour la seconde fois. Versée pure sur une blessure, elle la cautérise violemment, d'une façon presque instantanée. On a vu des bûcherons et des chasseurs, mordus par des serpents venimeux, guéris dès que quelques gouttes de la liqueur avaient touché la plaie.
« Mais c'est la panacée universelle !» s'écria le jeune médecin avec un rire qui décelait pas mal de scepticisme et d'incrédulité railleuse.
« Ne riez point !» fit le Canadien d'une voix grave. « Je vous ai dit vrai, et vous pourrez vous en convaincre.
Comment ? En en faisant l'épreuve ?
Pour faire l'épreuve, il faudrait en avoir. Voulez-vous m'en donner ?
Cela m'est impossible. Je n'en ai que juste ce qu'il faut pour continuer mon traitement.
Je serais pourtant très curieux d'expérimenter et d'analyser ce médicament étrange. Où pourrais-je m'en procurer ?
Vous allez à New York ? Demanda le Canadien.
Oui.
Eh bien, écrivez ce que je vais vous dire. Le jeune médecin tira de sa poche un agenda et un crayon et s'apprêta à prendre des notes. De son côté, Ovid, tournant le dos au causeur, en avait fait autant. Le Canadien dicta. « Chuchilino, 11e avenue, numéro 24. »«
Qu'est-ce que ce Chuchilino ?»«
Un homme de mon village qui a quitté le Canada pour venir trafiquer à New York. Il fait venir des montagnes la liqueur de vérité et la vend à peu près au poids de l'or. Ainsi, il vous fera payer $15 une fiole pas plus grande que celle-ci.
C'est effroyablement cher, en effet. Mais je l'achèterai quand même. Je veux posséder cette liqueur. »
Ovid avait inscrit le nom et l'adresse sur son calepin.
« Et moi donc, se dit-il, je donnerai 75 francs de bien bon cœur pour pouvoir administrer à mon cousin une cuillerée de cette drogue bavarde, histoire de lui délier la langue et de savoir un peu ce qu'il a dans son sac. »
La cloche du bord se mit à sonner, annonçant l'heure du repas pour les passagers des deux classes. Le Canadien et le médecin français se levèrent pour gagner l'entrepont. Ovid remit son calepin dans sa poche et les suivit. Tandis que ceci se passait sur le gaillard d'avant du Lord Mayor, Jacques Garot, redescendu au salon de conversation, avait enfin trouvé l'occasion d'adresser la parole à Noémie Mortimer, la fille de l'ingénieur millionnaire. À la suite de ce que venait de lui dire Ovid Soliveau, son prétendu cousin, son désir d'entrer en relation avec James Mortimer avait singulièrement grandi. Jacques Garot, le voleur, l'incendiaire, l'assassin, rêvait d'arriver non seulement à la fortune, mais à une haute situation industrielle. L'ambition de tout temps chez lui à l'état latent grandissait rapidement. Il se disait « Je suis sur la route de la fortune, je ne m'arrêterai pas. Je marcherai vers le but convoité d'un pas toujours plus ferme et toujours plus rapide. » Ce qu'il avait volé ne comptait déjà plus pour lui.
Pas tout à fait 200 000 francs. Il lui fallait des millions, et il les aurait.
Le hasard, cette fois, lui vint en aide. La blonde Noémie s'était mise au piano, tandis que James Mortimer causait avec deux ou trois Américains de sa connaissance. La jeune fille étudiait les motifs d'une opérette, en ce moment fort en vogue à Paris. Jacques, très amateur de spectacle, avait vu deux fois cette opérette, et comme il possédait une grande mémoire musicale, il en savait par cœur tous les airs. Il vint s'asseoir à une faible distance de la jeune fille pour l'écouter mieux. Noémie s'était à plusieurs reprises aperçue que le passager la regardait avec un plaisir manifeste. Il avait la tenue d'un gentleman, il voyageait en première classe, pourquoi se serait-elle offensée de son admiration discrète ? Aussi, elle ne songeait point du tout à s'en offenser. Peut-être même en sa qualité de fille d'Ève, y prenait-elle un innocent plaisir.
En voyant Jacques l'écouter attentivement, elle rougit un peu, ce qui la rendit encore plus jolie, et n'interrompit pas son morceau. Même un connaisseur aurait pu signaler dans son jeu plus de brio. Le morceau achevé, et tandis que vibrait encore l'instrument, Jacques se pencha vers la musicienne. « On voit, mademoiselle, lui dit-il, que vous avez habité la France, et non seulement la France, mais Paris. » La jeune fille leva ses grands yeux bleus sur le personnage qui se permettait de lui adresser la parole sans lui avoir été présenté, chose contraire à tous les usages. Mais elle ne se montra point choquée et demanda d'une voix douce avec un demi-sourire. « À quoi voit-on cela, monsieur, s'il vous plaît ? À ce que vous n'interpréteriez pas cette musique d'une façon tellement vivante, entraînante, si vous ne l'aviez entendue à Paris, dans le théâtre même où elle a été créée ? J'y retrouve toutes les nuances de mon cher pays. Ah, vous êtes français, monsieur ? Oui, mademoiselle. Eh bien, vous avez raison, monsieur. J'ai entendu ces motifs à Paris, au théâtre des Bouffes. Ils m'ont paru charmants et je les ai retenus. Vous avez une mémoire prodigieuse. Pour ce qui me plaît, oui, et beaucoup de choses m'ont plu en France.